Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin, le journaliste congolais Stanis Boujakera est sorti de prison selon un proche. Un comité de l'ONU condamne à des conditions de détention déplorables au Gabon. En Afrique du Sud, perquisition chez la présidente du Parlement dans le cadre d'une affaire de corruption présumée portant sur 1,3 millions de dollars. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken attendu au Moyen-Orient pour tenter d'arracher une trêve à Gaza au bord de la famine. En République démocratique du Congo, Stanis Boujakera, correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters, a été libéré cette nuit de la prison centrale de Kinshasa, où il était détenu depuis septembre dernier. Le ministère public a retiré son appel. Stanis est libre. Il est dans la voiture. Je le ramène à la maison, a déclaré Patient Ligodi, le chef du journal en ligne Actualité.cd, dont M. Boujakera est également directeur de publication à juin. Il a été condamné lundi à 6 mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive, et à une amende d'1 million de francs congolais, soit près de 400 dollars. Stanis Boujakera est accusé notamment d'avoir produit un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort de Chérubin Okende, un opposant retrouvé mort en juillet dernier. Le sous-comité de l'ONU pour la prévention de la torture se dit préoccupé par les conditions de détention déplorables dans les lieux de privation de liberté au Gabon. Nani Talani.
Dans un communiqué publié hier mardi, le SPT exhorte le Gabon à s'attaquer de toute urgence à la surpopulation et aux horribles conditions dans les prisons et les lieux de garde à vue. D'après Abdallah Ounir, chef de la délégation de 5 personnes qui s'est rendue au Gabon, la principale cause de cette surpopulation est le recours systématique à la détention provisoire et sa durée excessivement longue. Les droits fondamentaux des personnes présumées innocentes sont ainsi bafoués, notamment par la lenteur de la justice, poursuit-il. Les experts indépendants ont conduit des visites inopinés dans des prisons, des commissariats, des postes de gendarmerie et à la Direction générale du contre-espionnage et de la sécurité militaire, surnommée B2, mais aussi dans un établissement psychiatrique et un centre gériatrique. Ils demandent aux autorités de Libreville de mettre fin aux traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux personnes en détention. En 2013, le SPT avait effectué une visite similaire et formulé des recommandations. 11 ans plus tard, il déplore le manque de mise en œuvre de mesures visant à lutter contre la surpopulation carcérale, l'impunité des auteurs d'actes de torture et de mauvais traitements.
En Afrique du Sud, une perquisition a été menée au domicile de la présidente du Parlement hier. L'opération a été conduite dans le cadre d'une enquête sur une affaire de corruption. Yacouba Ouedraogo.
C'est ce qui ressort d'un communiqué du parquet national sud-africain. Dans un autre communiqué, le Parlement a souligné que Mme Nosiviwe Mapisa Nkula, figure de l'ANC, est fermement convaincue de son innocence et n'a rien à cacher. Il ajoute qu'elle a offert sa complète coopération aux enquêteurs pendant la fouille qui a duré plus de 5 heures à son domicile dans une banlieue de Johannesburg. Selon des informations divulguées par des médias locaux, Nosiviwe Mapisa Nkakula est suspecté d'avoir perçu au moins 2,3 millions de dollars en espèces d'un contractant militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense de 2013 à 2021. Le premier parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, réclame sa démission, estimant que son maintien compromet l'intégrité de l'institution législative. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai pour renouveler leur parlement qui va désigner le prochain président.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les efforts des médiateurs se sont encore intensifiés hier pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza où la famine guette des centaines de milliers de Palestiniens après plus de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Michel Joseph.
Alors que les discussions sur un éventuel accord de trêve se poursuivent au Qatar, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a accusé Israël hier de saboter ces négociations en mettant depuis lundi une opération d'envergure contre l'hôpital Al-Shifa dans le nord de Gaza. Les ONG et les agences de l'ONU ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le risque imminent de famine dans le territoire palestinien. 100% de la population de Gaza se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire grave, a affirmé hier le secrétaire d'État américain. C'est la première fois qu'une population entière est ainsi classée, a ajouté Anthony Blinken, qui entame une nouvelle tournée régionale. Il est attendu en Égypte aujourd'hui, puis se rendra en Arabie Saoudite dans le cadre des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et augmenter l'aide humanitaire à Gaza. En dépit des pressions internationales, Israël a dit se préparer à une opération terrestre à Rafah qu'il qualifie de dernier bastion du Hamas.
Pour sa part, de passage à Washington hier, la chef de la diplomatie sud-africaine a accusé Israël de créer un précédent en ignorant les décisions de la Cour internationale de justice qui, après avoir été saisie par Pretoria, a appelé l'État hébreu en janvier dernier à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. Israël a jugé scandaleuses les accusations de génocide. Naledi Pandor a évoqué une situation de famine généralisée dans la bande de Gaza. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a également parlé de la guerre en Ukraine, indiquant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Afrique du Sud dans les prochains mois. La Maison-Blanche et des dirigeants du Congrès des États-Unis indiquent avoir conclu un accord pour continuer à financer l'administration fédérale, un texte qui doit être adopté avant la fin de la semaine. Eric Manirakiza.
Nous sommes parvenus à un accord avec les chefs de file du Congrès, a annoncé Joe Biden dans un communiqué sans indiquer le montant de ce budget. Depuis plusieurs mois, les États-Unis sont confrontés à des difficultés dans l'adoption d'une loi de finances pour l'année 2024. Les querelles partisanes ont entravé le processus législatif, ne permettant que l'adoption de mini-lois temporaires pour étendre le budget de l'État fédéral. Ces prolongations temporaires ont maintenu le pays dans une incertitude constante, avec le risque imminent d'un shutdown dès l'expiration d'une de ces mesures. L'arrêt partiel du gouvernement entraînerait une série de conséquences dommageables, telles que des contrôleurs aériens non payés, des fermetures d'administration, des aides alimentaires gelées et des parcs nationaux non entretenus. L'accord annoncé hier représente une avancée majeure pour éviter un tel scénario. C'est adopté par la Chambre des représentants et le Sénat, puis être promulgué par le président Joe Biden. Cet accord assurerait la stabilité budgétaire jusqu'à la fin de l'année fiscale en septembre.
La Cour suprême américaine a levé hier la suspension d'une loi controversée du Texas qui criminalise l'entrée illégale dans cet État frontalier du Mexique, empiétant sur les prérogatives des autorités fédérales. Ce jugement que la Cour à majorité conservatrice motive par des raisons purement procédurales permet provisoirement l'entrée en vigueur de la loi, initialement prévue le 5 mars, mais bloquée par un tribunal fédéral de l'État du Texas. La Maison-Blanche a dit déplorer la décision de la Cour suprême. Pour elle, la loi du Texas, qu'elle qualifie de néfaste et d'inconstitutionnel, sèmera le chaos et la confusion à la frontière sud. Également dans l'actualité américaine, Hunter Elrod, un ancien policier du Mississippi de 31 ans, reconnu coupable d'avoir torturé avec 5 de ses collègues blancs 2 Africains-Américains, a été condamné hier à 20 ans de prison. Jeffrey Middleton, 46 ans, a lui été condamné à 17 ans et demi de prison. Les 4 autres prévenus se verront signifier leur peine aujourd'hui et demain. Une attaque contre la banque centrale d'Haïti dans la capitale Port-au-Prince, qui est en grande majorité aux mains des gangs, a été repoussée et plusieurs assaillants ont été tués avant-hier. Haïti, qui vivait déjà une profonde crise politique et sécuritaire, est en proie à un regain de violence depuis le début du mois. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à toutes les parties prenantes haïtiennes pour qu'elles mettent de côté leurs divergences et agissent immédiatement pour former les autorités transitoires après la démission du chef du gouvernement Ariel Henry la semaine dernière. Le département d'État américain a indiqué hier avoir approuvé la vente pour 2,2 milliards de dollars de chars de combat à Bahreïn, petit royaume du Golfe, siège de la 5e flotte de l'US Navy. Bahreïn, dirigé par une dynastie sunnite, est un proche allié de Washington au Moyen-Orient, mais avait été visé par un embargo américain sur les armes après la répression de manifestations animées par des partis chiites dans la foulée du printemps arabe en 2011. L'ancien dirigeant Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de novembre, assure que ses récentes menaces contre l'OTAN sont avant tout une manière de négocier avec les pays de l'Alliance Atlantique. Les propos du républicain avaient été vivement critiqués par des dirigeants européens et par son rival démocrate, le président Joe Biden. Les États-Unis doivent payer leur part, pas la part de tout le monde, a dit Donald Trump sur la chaîne britannique GB News hier, lors d'un tête-à-tête avec Nigel Farage, figure de l'extrême droite au Royaume-Uni. Et puis pour la 7e année consécutive, la Finlande garde son titre de pays le plus heureux au monde, selon une étude parrainée par l'ONU. Voilà pour le journal, sans transition, la Minute Éco avec Alexandrine Rolognon.
Ici aux États-Unis, les entreprises s'apprêtent pour l'éclipse solaire totale du 8 avril. Les hôtels et les centres de villégiature situés le long de la trajectoire de l'éclipse proposent des forfaits spéciaux, tandis que les grandes compagnies aériennes telles que Southwest et Delta vendent des places sur des vols permettant de voir l'éclipse. Les petites entreprises proposent notamment de la bière et des beignets sur le thème de l'éclipse. Des experts du club de football de Liverpool ont collaboré à un nouvel outil d'intelligence artificielle de Google, proposant les meilleures tactiques à suivre pour tirer un corner, selon une étude scientifique publiée mardi. Pour autant, aucun joueur de l'équipe anglaise n'a mis en œuvre ces recommandations, dont un expert indépendant estime qu'elles demanderont à être vérifiées sur le terrain.
À présent, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo pour les sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Georges Finidi, nommé sélectionneur intérimaire du Nigeria.
Oui, l'ancien international nigérien sera aux commandes de la sélection de son pays lors de la trêve internationale de ce mois de mars. L'entraîneur Denimba remplace provisoirement José Pesero, qui a conduit l'équipe en finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire et qui n'a pas vu son contrat renouvelé lorsqu'il a expiré. Georges Finidi était l'adjoint de Pesero. Les Super Eagles vont affronter les Black Stars du Ghana ce vendredi 22 mars avant de se mesurer aux Aigles du Mali le 26 à Marrakech au Maroc.
Basketball, les Américains dans le groupe de la mort au JO 2024.
Les Américains, quadruple tenant du titre et qui devraient se présenter à Paris avec une équipe uniquement composée de vedettes, vont affronter l'Allemagne dans le groupe C, en plus du Soudan du Sud et le vainqueur du tournoi de qualification de Porto Rico, où on retrouve la Côte d'Ivoire. Pays organisateur, la France, logée dans la poule B, va jouer l'Allemagne, le Japon et le vainqueur du tournoi de qualification olympique organisé en Lettonie, où le Cameroun va essayer de composter son ticket. Dans la poule A, l'Australie croisera le fer avec le Canada, troisième du mondial 2023, le vainqueur du tournoi de qualification olympique en Grèce et l'équipe qui remportera celui organisé en Espagne où figure l'Angola. Les deux premiers de chacun des trois groupes et les deux meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale. Même règle pour le tournoi féminin où les Américaines septuples tenantes du titre vont affronter en plus de la Belgique, championne d'Europe en titre, l'Allemagne et le Japon dans le groupe de la mort. Les Françaises, médaillées de bronze à Tokyo en 2021, vont affronter l'Australie, le Canada et le Nigeria.
Jeux olympiques 2024 toujours, les Russes et Bélarusses ne vont pas parader lors de la cérémonie d'ouverture.
C'est ce qu'a annoncé le Comité international olympique. Comme ils participent à titre individuel à la compétition, ils ne se joindront pas au défilé des équipes nationales, mais ils auront la possibilité de vivre l'événement, a indiqué sans plus de précision James McLeod, directeur de la solidarité olympique au sein du CIO. La commission exécutive de l'instance a adopté mardi un drapeau dédié aux Russes et Bélarusses sous bannière neutre, ainsi qu'un court hymne sans parole qui sera joué en cas de titre olympique. Seuls 12 Russes et 7 Bélarusses se sont pour l'heure qualifiés pour les JO 2024 sur les 6000 tickets déjà attribués, a expliqué James McLeod.
Merci bien, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce mercredi 20 mars 2024. Jacques Harris est toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Les États-Unis n'excluent pas de maintenir leur présence militaire au Niger, alors que la junte au pouvoir à Niamey a déclaré récemment mettre fin à un accord autorisant la présence de forces américaines dans le pays africain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le point avec Jeff Selden, correspondant de la VOA au Pentagone, récit Yakuba Ouedraogo.
Quelques jours après que les militaires au pouvoir au Niger ont demandé aux forces américaines de quitter leur pays, 1 million de soldats américains et d'autres membres du personnel militaire se trouvent toujours sur place.
Nous travaillons par voie diplomatique pour obtenir des éclairages.
Sabrina Saint, attachée de presse adjointe au Pentagone.
Je n'ai pas de calendrier de retrait des forces.
Selon Mme Saint, malgré l'annonce par Niamey de la révocation immédiate de l'accord autorisant les forces américaines à opérer au Niger, les responsables américains n'ont toujours pas reçu de délai précis.
Nous souhaitons que notre partenariat se poursuive s'il existe une voie à suivre.
Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
En ce qui concerne le Niger, nous avons clairement indiqué au Niger, y compris très récemment, que nous avions un certain nombre de préoccupations très réelles dans plusieurs domaines et que nous étions troublés par la voie dans laquelle le Niger s'était engagé. Nous sommes en contact. Nous restons en contact avec le CNSP et nous discutons avec lui de la voie à suivre.
Vinette Patel, porte-parole du département d'État, indique que ces discussions passent par l'ambassade des États-Unis et que Washington estime avoir des arguments solides.
Nos partenariats de sécurité avec les partenaires d'Afrique de l'Ouest sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre ce que nous croyons être des objectifs communs de détection, de dissuasion et de réduction de la violence terroriste et de création d'environnements propices au développement économique et social.
Les forces américaines au Niger sont essentiellement en attente, toutes les opérations antiterroristes étant suspendues depuis le coup d'État de juillet dernier. Mais les services de renseignement américains sont de plus en plus préoccupés par le fait que les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique se développent, ce qui accroît le risque pour le Sahel et au-delà. Les Américains craignent aussi que leur départ n'ouvre la voie à l'installation d'adversaires tels que la Russie et l'Iran. Ces préoccupations semblent avoir irrité les militaires au pouvoir au Niger lors d'une récente série de pourparlers et qui pourraient avoir motivé l'expulsion des États-Unis. Cependant, le message de la Maison-Blanche est qu'il y a encore de l'espoir.
Nous sommes en contact avec eux.
Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.
Je m'en tiendrai là, car les discussions avec les autorités nigériennes se poursuivent.
Si les forces américaines doivent quitter le Niger, les responsables du Pentagone affirment qu'il existe d'autres solutions, même si certains d'entre eux craignent que les autres bases potentielles ne soient pas aussi pratiques pour lutter contre la menace terroriste.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, Amadou Ba, le successeur trié sur le volet de l'actuel chef de l'État Macky Sall, est susceptible d'être confronté à une bataille électorale ardue ce dimanche 24 mars, lorsque le candidat autrefois favori affrontera 18 autres prétendants à la présidentielle sur fond de divisions internes au sein de son parti, mais aussi sur fond d'inquiétude ayant trait à son manque d'expérience dans l'arène politique. Blanche Sanou nous en dit davantage.
Nous avons surmonté les obstacles.
Le président Macky Sall a choisi Amadou Ba comme candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bok Yakar, après un processus de consultation à l'échelle du parti. Ancien ministre de l'économie et des affaires étrangères, Amadou Ba, 62 ans, a été nommé premier ministre en septembre 2022 après avoir dirigé la direction des impôts.
Je m'engage à être le président de l'emploi des jeunes. acquis.
Pour Macky Sall, M. Ba serait une figure unificatrice. Écoutons Amadou Ba.
De la paix que nous recherchons, si nous parvenons à la consolider, l'unité que nous voulons, si nous parvenons à raffermir cette unité, on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de promettre.
Mais les analystes affirment qu'il existe des divisions au sein du parti Benno Bokyakar, qui a perdu des villes-clés lors des élections locales de 2022 et un certain nombre de sièges aux élections législatives de 2023. Ces divisions ont été aggravées quand Macky Sall a proposé de reporter les élections. Division ou pas, Amadou Ba tente de convaincre les Sénégalais. Certains membres s'inquiètent du fait que M. Ba n'a jamais participé à une élection présidentielle, contrairement à la plupart de ses principaux opposants, et qu'il a eu du mal à susciter le même enthousiasme que d'autres dans le vaste champ des candidats. Amadou Ba, candidat à l'élection présidentielle.
J'avais toujours pensé que c'était des aventuriers.
Amadou Ba, comme les 18 autres candidats, a choisi de s'adapter au plus vite, réajuster sa stratégie et accélérer le calendrier. La campagne qui a commencé le samedi 9 mars s'achève le 22 à minuit. Macky Sall quittera la présidence après l'élection du 24 mars.
Alexandrine Cronogno avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. La junte au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Quelles implications en termes de sécurité nationale pour le Niger? Quels sont les possibles scénarios futurs en termes de relations diplomatiques entre le régime militaire et les États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Pour contourner les coupures intempestives de courant effectuées par la société Énergie du Mali, les Bamakois se tournent de plus en plus vers des solutions alternatives. Elles incluent les panneaux solaires, les groupes électrogènes et les batteries rechargeables. Le reportage de notre correspondant Mohamed Danioko, qui a fait un tour au marché de Dibidani de la capitale malienne.
10h du matin ce lundi, le thermomètre affiche déjà 35 degrés à l'ombre. Les ronronnements des groupes électrogènes au marché Dibidani de Bamako témoignent du manque de courant dans la zone. Dans sa boutique de vente de groupes électrogènes, Sege Babadji et ses collègues guettent l'arrivée des clients. Leur activité connaît une forte croissance depuis qu'Énergie du Mali peine à fournir correctement l'électricité. Nous ici, nous vendons des groupes électrogènes et ça marche, surtout que l'énergie du Mali n'arrive pas à fournir le courant correctement au Mali. Beaucoup vendent des panneaux solaires et des batteries, mais nous, notre commerce de groupes électrogènes se porte à merveille. Non loin de là, à Bamako Koura, la boutique de vente de panneaux solaires de Tonkara ne désemplit pas. Les clients embarquent plusieurs plaques de panneaux. Journaliste de formation, Aïssé Tonkara, sa fille, vient lui prêter main forte.
Alors chez nous, on gère pas mal. Et vu qu'on a amené beaucoup de panneaux, peut-être pas suffisamment pour satisfaire toute la demande, mais c'est assez quand même. Il y a les panneaux, il y a les batteries lithium, il y a les convertisseurs. En gros, tout ce que vous devrez avoir besoin pour une bonne installation de vos panneaux.
Il n'est que midi et Kossa Maïga, journaliste, a déjà recours à son power bank pour recharger sa batterie. Pour lui, le power bank, les batteries rechargeables et les groupes électrogènes sont indispensables aujourd'hui dans la capitale.
Power bank, le batterie, les groupes électrogènes sont vraiment indispensables ici aujourd'hui au Mali. Donc, c'est le matériel qui nous permet de nous donner de l'électricité en cette période accrue de délestage. C'est quand même un moyen de nous dépanner pour faire passer les heures sombres du délestage.
Ce marché florissant n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, EDM a rendu public une nouvelle programmation de fourniture de courant. Ainsi, au lieu des 12 heures promises par jour par son directeur à la veille du Ramadan, la société ne va fournir que 7 à 8 heures de courant par jour. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
La diversité et l'unité caractérisent la célébration de l'Iftar, le repas quotidien de rupture du jeûne, durant le mois saint du Ramadan. Nous sommes allés à la rencontre à des membres d'une communauté musulmane non loin de Washington, D.C., alors qu'il a se rassemblé avec des invités de divers pays pour partager ce moment spécial. C'est un reportage de Sims Loumami avec le récit d'Alexandrine Rolognon.
C'est dans une ambiance chaleureuse et remplie de générosité que des membres de la communauté musulmane de Potomac, dans l'État américain du Maryland, se retrouvent pour marquer ensemble l'Iftar. Ce repas de rupture du jeûne symbolise à la fois leur foi et la richesse de leur diversité culturelle. Mamadou Niang est un fidèle musulman.
On est là, on se prépare pour couper le jeûne, donc on va manger des dattes et prendre de l'eau. Après, on va partir dedans pour prier. Après ça, on va prendre le dîner. Après le dîner, on va prier encore. Et après ça, on va partir à la maison.
L'Iftar transcende les frontières et met en avant la diversité des cultures. Les participants partagent des plats typiques des pays représentés au sein de leur communauté. Cette semaine, ils ont eu l'occasion de découvrir et déguster des plats sénégalais. Adja Koïté est propriétaire d'un restaurant.
Puisqu'il s'agit d'une communauté diversifiée, nous essayons de présenter les différentes cultures à tout le monde. Comme aujourd'hui, c'est la journée sénégalaise. Ainsi, nous avons la cuisine sénégalaise, notamment le yassa et les beignets qui sont considérés comme un dessert. Vous pouvez aussi les utiliser comme du pain.
Lors de cette occasion spéciale, l'accent est mis sur le partage qui illustre l'unité au sein de cette communauté.
Nous apprenons les cultures respectives des uns et des autres pendant le mois du Ramadan. Une partie de cela est religieuse. Vous savez, nous nous réunissons pour prier, nous nous réunissons pour rompre notre jeûne. Mais il y a aussi une composante culturelle à cela. Les gens célèbrent ensemble et partagent un repas ensemble. Ainsi, nous voulons qu'ils fassent l'expérience d'une communauté très ouverte, très accueillante, très chaleureuse. Et c'est ça le Ramadan.
Yassine Belkodja, un des membres de la communauté, en profite pour évoquer la contribution du centre musulman de Potomac à la lutte contre le réchauffement climatique en protégeant l'environnement.
Nous avons décidé il y a quelques années déjà de n'utiliser uniquement des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des verres qui sont compostables. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser au maximum notre impact sur l'environnement. Tout ce qui reste des repas sont réutilisés et transformés en terre qui peut après retourner pour protéger l'environnement.
Des membres de la communauté disent également prier pour les nombreuses personnes prises au piège de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Khaled Kabara est un fidèle musulman.
C'est un Ramadan différent car nous pensons à tous nos frères et sœurs palestiniens et plus spécifiquement à ceux et à celles de Gaza. Et nous espérons que ce Ramadan leur apportera un soulagement et mettra fin à la misère qu'ils endurent, Inch'Allah. Mais à part cela, c'est un mois formidable et de grandes bénédictions.
Sur fond de rire et de conversation, parents, enfants et amis dégustent le repas traditionnel sénégalais. Il s'agit pour eux d'une belle expérience permettant à toutes ces personnes de cultures différentes de se réunir pour célébrer l'Iftar et démontrant que l'unité dans la diversité est au cœur du Ramadan.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 20 mars 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.